On y va. Voilà. Erev Tov les Koulam. Erev Tov tout le monde. On est parti pour notre petite préparation à Chag à Shavuot. Petite préparation à Chag à Shavuot. C'est parti. Donc, on va essayer de comprendre quel est le grand problème quand on doit inviter des gens à une simcha. Je pense que vous avez tous dû vous poser la question. Moi, je suis en train de refaire la liste des invités pour la bat mitzvah de ma fille. Vous avez dû vous retrouver dans cette situation-là. Mariage, bar mitzvah, inyanim. Qui j'invite? Bon, qui j'invite, ça passe. Mais ce qui est plus dur, c'est de savoir qui j'invite pas. Eh oui, parce qu'il y a des gens avec qui je suis, comme on dit en arabe, brogues. Et je n'ai pas envie de les voir à ma simcha. Et quand tu réfléchis bien, il y a toujours un truc qui se passe derrière. Genre, il y a dû se passer un truc entre ces deux personnes-là. Pourquoi ils décident de ne pas l'inviter? Alors, pourquoi je te parle d'inviter des gens à une simcha pour préparer la fête de Shavuot? Eh bien, tout simplement parce que ben, le Talmud nous raconte une histoire d'un mec qui n'a pas invité un autre mec à la simcha qu'il avait. On est dans le Talmud, dans le traité de Bava Batra, à la page Tzadik Aleph, et on nous raconte comme ça. Alors je vous lis. Amar Rabba Baravuna, Amar Rav. Il y a un bonhomme dans le livre de Shoftim qui s'appelle Ivtsan. Ok, un des Shoftim, il s'appelle Ivtsan. Seulement, nous dit la Gemara tout de suite, elle enlève le suspense, et elle nous dit « Iftan ze Boaz ». Le Boaz de Megillat Ruth, qu'on va lire à Shavuot, eh bien, ce mec-là, en fait, son vrai nom, c'était Iftan. Ou le vrai nom de Iftan, c'était Boaz. Donc, jamais, c'est la même personne. Et là, on nous dit, donc, Boaz ze Iftan. Maïka Mashmanan. Et alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Qui dar de Rav Aravuna, de Amar Rav Aravuna, Amar Rav, me'avesrim mishtaot asa Boaz le Banav. On nous dit donc que Boaz, c'était un mec qui, Baruch Hashem, au niveau du chèque, il était bien. Et on nous dit qu'il a fait me'avesrim mishtaot, donc 120 repas de fête, comme il est marqué dans le livre de Shoftim à propos de Iftsan. Vaï lo shloshim banim ou shloshim banot, shalach achutza, shloshim banot la shalach achutza, slicha, ve shloshim banot evi le banav, min achutz, vaïshvot et Israël, sheva shanim. Kol echad ve echad, asa shtem mishtaot, achad bebait, bebait aviv, ve echad bebait, Chamiv. Donc nous dit la Gemara que Boaz, il avait 30 garçons et 30 filles. Donc il a marié ses 30 garçons à 30 filles et ses 30 filles les a mariés à 30 garçons. Et pour chacun des mariages, il a fait deux repas de fête. Un chez lui et un chez ses, chez les beaux-parents de la Khatan du Kala. Ok? Donc 120 Mishtaot. Bon, j'ai envie de te dire, c'est un élément intéressant. En quoi ça me concerne? Et quel rapport dans mon histoire? Eh bien, tout simplement, la Gemara termine en disant « Ube kulam » sur les 120 « Lo zimen et manoach » et à aucun des mishtaot, il a invité Manoach. C'est qui Manoach? Manoach, c'est le papa, pour l'instant pas encore, mais ça sera le papa de Shimshon. Il semblerait qu'il y ait un contentieux très profond entre Boaz et Manoach. Genre le mec, si la Gemara elle nous dit, il a fait 120 mishtaot, il a dû inviter tout le mi-vami de Eretz Israël, mais on te précise qu'il a jamais invité Manoach. Ça veut dire qu'il se passe un truc entre les deux. Qu'est-ce qui se passe entre Manoach et Boaz? Venez, on va voir. On va y rentrer doucement, doucement. Je sors de mon histoire de Manoach et Boaz, et je rentre dans mon histoire de Mahamad Arsinaï. Quand on a terminé d'être au pied du Mont Sinaï, vous savez, au pied du Mont Sinaï, on y a été longtemps, on y a été un an. Et finalement, la Torah nous dit, Vayis'u mi'ar Hashem, derech shloshet yamim, ve'aron brit Hashem nasa lifneem, derech shloshet yamim, latour lahem, menucha. Donc, le texte nous dit, Vayis'u mi'ar Hashem. Ils sont partis de la montagne de Dieu. Top ! Rien d'extraordinaire. On sait qu'ils sont partis du Har Sinaï. Seulement, le Maharsha, eh bien, il a un grand problème avec ce verset. Le Maharsha nous dit, dans son commentaire du traité de Shabbat, qui parle de ce verset-là, il dit, mais c'est bizarre, parce que dans la Torah, avant ce verset-là, à aucun moment, on voit que le mont Sinaï est appelé Har Hashem. Il est appelé soit Har Sinaï, soit Har Elohim, soit Har Chorev. Mais il n'est jamais appelé Har Hashem. Et il nous dit, le Maharsha, au contraire, Har Hashem, ce n'est que Har Amoria dans la Torah, dans le Tanakh. Donc, qu'est-ce que ici, on vient nous dire, Vayisou Me'ar Hashem. Nous dit le Maharsha, tu sais pourquoi est-ce que ça s'est appelé Har Hashem? Parce qu'ils ont commencé à penser que le Har Sinaï, c'était ce qui devait être Har Hashem. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand on regarde le début du livre de Devarim, donc le début de la du récapitulatif, si tu veux, que Moshe Rabbeinu va faire au Bnei Israël, eh bien, Moshe va commencer par des tochechot. Il va commencer par rappeler là où on s'est mal comporté. Et qu'est-ce qu'il rappelle en premier lieu? Quelle est la première chose que Moshe nous rappelle? Quelle est la première chose mauvaise qu'on a fait? Eh bien, regardez les versets. Nous dit la Torah, « Elle est à devarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever ha-yarden » במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודזהב, 11 יום מחורב, דרך הר סעיר, עד קדש ברנע, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה השם אותו, עליהם. אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת אוג מלך הבשן אשר יושב באשרות בעדרי, בעבר הירדן, בארץ מואב. הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. וואלה. Là, on a posé le décor. Et là, la Torah va nous dire qu'est-ce qu'il a dit. C'est quoi les premières paroles de Moshe? Hashem Eloheinu diber elenu bechorev lemor. Dieu nous a dit, quand on était à Chorev, Chorev, c'est l'un des noms du Har Sinaï. Alors voilà, si je m'arrête là et que je te fais un récapitulatif de ce que Dieu nous a dit au Har Sinaï, qu'est-ce que tu me réponds? Qu'est-ce que Dieu nous a dit au Har Sinaï? Baron, Aser et Adibros. Genre, s'il y a bien un truc qui me vient à l'esprit quand je me dis Dieu il m'a parlé au Har Sinaï, c'est Aser et Adibros. Non, Gambi Tana Fashem. Ça viendra plus tard. C'est pas ce qu'il leur a dit. Puisque ça, c'est pas Ben Sinaï. Gambi Itana Fashem, c'est à cause des Meraglim. Donc c'est quelque chose qui arrivera beaucoup plus tard. Qu'est-ce que c'est que Dieu il nous a dit quand on était au Sinaï? Eh bien, regardez ce que dit le Passouk. Il parle pas du tout de la Seret Adibrot. Le Passouk, il dit. Donc, Hashem, Eloheinu diber elenu bechorev lemor, rav lachem shevet bahar azeh. פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנער הגדול נהר פרת. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, יצחק ויעקב, לתת להם ולזרם אחריהם. Qu'est-ce que Dieu nous a dit quand on était au Sinaï? Il nous a dit plein de choses. Mais quelle est la chose que Moshe rappelle en premier lieu? Il va rappeler la Aseret HaDibrot. Il va le rappeler dans Parashat Vayetranan. Mais ce n'est pas la première chose qu'il rappelle. La première chose qu'il rappelle, c'est que Dieu nous a dit « Dai, ça suffit de s'asseoir au Har Sinaï. » Il est temps de partir vers la terre d'Israël. Maintenant, pourquoi Dieu il a besoin de dire ça? Pas shoot. Parce que les Bnei Israël, ils ne voulaient pas partir du Har Sinaï. Ils étaient bien au Har Sinaï. Et c'est ce que dit ici le Kli Yakar. Le Kli Yakar nous dit « Zotochecha Rishona » C'est la première réprimande que Moshe va faire au Bnei Israël. Al sha'anashim san'u et ha'aretz. Que les gens ont détesté la terre d'Israël, ces gens qui étaient au pied du mont Sinaï. J'étais, c'était fantastique, j'étais vendredi, non pas vendredi, hier, dimanche. J'étais dimanche à Mea Shearim. Je cherchais là-bas des birkat Amazon pour la bat mitzvah de ma fille. Et ben qu'est-ce que je vois pas là-bas? Une manifestation de nos amis Netour et Karta avec des drapeaux palestiniens partout, disant que un juif n'est pas un sioniste n'est pas un juif, Gewalt! Et ils ont crié ça avec des haut-parleurs dans toute la rue. Anashim, Sanou et Taharet! Et donc, non seulement cela, et ça continue, le Kriyakar continue. Il nous dit la chose suivante. Il dit, l'anachim sanou et taaret. Ve nityashvu beharze yeshiva shel keva. Et ils ont voulu s'installer au Har Sinaï de manière permanente. Ve lo panou pneem el haaret. Makom meyuchad le kiyum a Torah ve a mitzvot. Ils n'ont pas voulu se tourner vers l'endroit où ils doivent faire la Torah. Ve rav lachem ou mileshon rav lachem ben elevi. כלומר, המעט הוא מרד, הוא המרד והמעל הזה, כי רב הוא באמת לכם עניין שבת, שבת ישיבה של קבע בהרזה. בדיוק ליקר, ça suffit de vouloir rester au pied du Mont Sinaï. Ça suffit de vouloir rester là-bas בחוץ לארץ. Continue le ליקר et dit, פנו, אסבו פניכם אל הארץ, וסו לכם אל העצמות מקור שלכם, כי משם נוצר חומר של אדם הראשון, כדרך שאמר לאברהם לך לך, ולכמה נשא פירוש מבואר על תוכך זו, ואמר הוא מנשא מחורב ונלך אל כל המדבר וגומר, והיה לו לומר ונפן ונשא מחורב, כדרך שאמר פנו וסו, אלא כך אמר להם, עדיין סליחה, בפחזותכם קיימתרון, כי אני אמרתי פנו וסעו, וכשתלכו מהר חורב, מקום שלימדתם עליו תורה, תפנו פניכם אל הארץ, מקום שמירת התורה. כי לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אמרו נודי לכלי עיקר. מפוכו יש בוזה די דפרטיר. פסקו איסי או ארסינאי שבוזה דוני לתורה. לבא עותר בישראל, בוזה לפר לתורה. Car le midrash, l'étude, n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de mettre en pratique. Or, tu ne peux pas mettre en pratique la Torah véritablement si tu es au Mont Sinaï. Il faut que tu rentres à la maison. Mais c'est évident ce que je dis. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le Kli Yakar. Je dis, c'est le bon sens. C'est mamash pashut, en fait. Donc comment ça se fait que si c'est tellement, tellement pas shoot, ben c'est tellement pas évident. comment ça se fait qu'il y a tellement de gens, et je parle de nos ancêtres en point de départ, mais on connaît ça très bien aujourd'hui, comment ça se fait qu'il y a tellement de gens, tu sais, être Israël, ken, lolo, zelo. Comment ça se fait? Pas shoot, merde. Quand on est au pied du mont Sinaï et qu'on reçoit la Torah, là-bas, il y a un verset très bizarre. Ce verset, il nous dit « Vechol ha'am ro'im et akolot ». Vechol ha'am ro'im et akolot. Ve'et ha'lapidim ve'et kol ha'shofar ve'et ha'ar ha'shen. Et le peuple entier voit, à ce moment-là, les voix. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils ont vu les voix? Nous, on sait que Jeanne, elle a entendu des voix. Bon, ça ne lui a pas bien réussi. Mais ça veut dire quoi, de voir des voix? Eh bien, Rabbi Yonatan Ben Uziel, enfin, même, on l'appelle pas Rabbi, Yonatan Ben Uziel, va traduire ce verset. Et quand il traduit le verset, il ne se contente pas de le traduire, il va également le commenter. Il nous dit à Nathan ben Uziel la chose suivante. V'chol amach amyan yet kalaya aicha ve'mitapechim b'shimeon de'kol chad v'chad ve'ech avu nifkin min go be'urye yet kal shofara eich ava machei meite ve'yet tura tenin v'chamun כל אמה וראתן וקמו תריסר מילין מרחיק. זה קלר, לא? נאוף בקלר? כל לרמיין נטיפה אבידון? נודי יונתן בן עוזיאל. כסקסה וכל העם רואים את הקולות? אילזון וו. כמו לבואה סוחטה דה למונטניה? Et rentrer dans les oreilles de chacun de manière différente en fonction de ce que chacun comprenait. C'est extraordinaire. Ça veut dire que chacun a sa place. Ça veut dire que chacun, avec sa compréhension, peut rajouter un étage dans le dévoilement de la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. Mais c'est également à double tranchant. Parce que ça veut dire que moi, j'ai une compréhension de la Torah. Moi, je comprends la Torah. Toi, tu comprends la Torah autrement. Mais moi, je comprends la Torah. En d'autres termes, nous avait dit le Kli Yakar tout à l'heure qu'il voulait rester bimkom limoud à Torah. Velo bimkom asiyat à Torah. J'ai parlé tout à l'heure que le Midrash n'est pas le Icar, que le Maasé c'est le Icar. Nachon. Mais il y a un autre problème. Belimud à Torah, lorsque j'étudie la Torah, il y a une mise en avant de moi. C'est-à-dire que l'individu est mis en avant dans l'étude de la Torah. Puisque c'est lui qui comprend telle ou telle chose. Et donc, ma chavruta, elle comprend autre chose dans l'étude à Prat Bolet. Dans l'étude, tu peux voir 25 commentateurs différents. Et donc, tu comprends que l'individualisme prend toute sa place dans le limoud à Torah. Pas dans l'action. Parce que dans les mitzvot, en fait, tu te rends compte qu'on a besoin d'être en contact les uns les autres. Que la majorité des mitzvot, tu ne peux pas les faire tout seul. Mais dans le limoud, tu peux être tout seul. Tu as besoin de ta chavruta pour comprendre à quel point tu n'es pas d'accord avec lui. C'est-à-dire que la limoud met en avant l'idée de l'individu. Chutz la'aretz, ça met en avant l'idée de l'individu. Vous savez, ce corona, il nous fait beaucoup réfléchir. Pardon ? J'y viens maintenant. Le corona nous a fait beaucoup réfléchir, j'imagine tout le monde. Mais j'aurais jamais pu atteindre la compréhension de ce que ça a fait en fait le corona si j'avais pas eu une discussion incroyable, et je ne vais pas dire son nom, mais une discussion absolument incroyable avec un directeur d'école juive de France qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, vous savez, vous en Israël, vous avez eu le corona. Bon, on ne parle pas au niveau de la maladie, non, on ne parle pas des morts, on ne parle pas de tout ça, on parlait d'autre chose. On parlait de notre façon de réagir en tant que communauté juive face à la situation. Et je lui racontais que même quand on a fermé les synagogues et tout, finalement, on s'est arrangé. Tout le monde a fait des minyan mirpasot, et puis on a fait des minyan dans les champs et tout ça, machin. On s'est arrangé. Finalement, même pendant le Seger, bon, je ne te parle pas du Seger de 24 heures pendant le soir du Seder, mais même pendant la période de 2 semaines où on a été vraiment confinés, la vie juive, elle a continué. Les mikvaot, ils ont continué. La vie juive, certes, les murs de la synagogue étaient fermés, mais le minyan n'était pas fermé, sauf pour une toute petite partie pour un tout petit laps de temps. On s'est arrangé. Me disait ce directeur, mais tu te rends pas compte, Ethan. Ce corona, pour nous, a mis en avant la fermeture de la vie juive. Nous, en Chutz La'aretz, quand est-ce qu'on est juif ? On est juif à la synagogue, on est juif à la communauté, on est juif au mouvement de jeunesse juif, presque plus, et on est juif à l'école juive, au restaurant kasher. Tout ça, ça a fermé. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de synagogue. Nous n'avons plus de communauté juive. Nous sommes maintenant juifs uniquement dans notre maison, séparés complètement des autres juifs. C'est évidemment un moment complètement extrême, le corona, mais ça met en surbrillance que Am Israël, en Eretz Israël, pratiquement à aucun moment, même dans ce corona, ils se retrouvaient détachés les uns des autres. Alors que là-bas, la dimension de l'individu a pris une place fondamentale. Ça, c'est vrai au niveau du corona. Mais est-ce qu'on peut comprendre cela aussi dans la vie de tous les jours ? Bien, je te dis oui. Puisque dans la vie de tous les jours, quand ce n'est pas le corona, eh bien là, encore une fois, le plus grand rassemblement de la communauté juive ne peut être qu'au niveau communautaire. Et le communautaire n'est que un ensemble de plusieurs individualités. Ce n'est pas la dimension collective que représente un peuple. En d'autres termes, Be'eretz Israël, la dimension du klal est la dimension prédominante. Bechutz la'aretz, le juif, a comme dimension prédominante le prat. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que l'un n'a pas sa place. Vous savez, dans les Shlosh Esrei Midot chez Torah Nidreshet Bahem, on nous dit klal sheu tsarich lifrat, vefrat sheu tsarich liklal. Donc on a besoin des fois de la dimension individuelle et on a besoin de la dimension collective. Là où il y a l'erreur, c'est lorsque tu places l'un et que tu annules l'autre. Oui, vas-y.
Ok. Je comprends ce que vous dites. En Israël, la dimension du clan, elle est bien plus évidente. Évidemment, ici, il y a le peuple juif. Mais je ne sais pas si ça veut dire qu'en fait, ça arrête la dimension du prêtre, elle est plus élevée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très investis dans leur communauté, justement, parce que la communauté prend tellement d'importance. Donc, je ne sais pas si l'équation...
Ils sont très investis, bien sûr, ils sont très investis dans la communauté, je suis d'accord, ce que je viens de dire. Mais la communauté, ce n'est pas le clan. Non, c'est ça. Bien sûr qu'ils sont investis, mais tu rigoles, s'ils n'avaient pas la communauté, ils n'auraient rien. Mais la communauté, c'est qu'un ensemble d'individus. Alors que le clan Israël, ce n'est pas un ensemble d'individus.
C'est ça que je ne comprends pas.
Ah, d'accord. La dimension du clan Israël, ce n'est pas un juif plus un juif plus un juif plus un juif plus plein de juifs, ça fait le peuple juif. Le peuple juif, c'est une dimension qui dépasse les individus, à tel point que la Gemara, dans le traité de Yoma, va nous dire que l'âme d'Israël, de l'entité collective, a été créée avant la création du monde. C'est-à-dire que le clan Israël, c'est quelque chose qui est complètement intemporel, qui est complètement indépendant de toi et moi. Et toi et moi, nous sommes une possibilité d'exprimer ce clan ou pas. Le clan nous dépasse. C'est pour ça que clan Israël, il sort d'Égypte. Est-ce que monsieur et madame vont sortir d'Égypte? Ça dépend d'eux. Mais clan Israël, il sort d'Égypte. C'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, clan Israël, il est rentré en Israël. Est-ce que ça veut dire que tous les juifs sont rentrés? Non. Toi, à Givat Shmuel, tu es une expression de ce clan Israël qui est rentré en Israël. Moi, à Jérusalem, je suis une autre expression de ce clan Israël qui est rentré en Israël. Et monsieur qui habite à Paris, eh bien, il n'exprime pas le clan Israël qui est rentré. Mais ça n'empêche pas que le clan, il est rentré quand même. OK? Et donc, le corona va exacerber cette dimension. En d'autres termes, il y a ici un combat entre le clan et le prat. Lorsqu'on ne voulait pas partir du Har Sinaï, c'est parce qu'on voulait garder la dimension du prat comme étant la dimension unique. Le Kliagar vient nous dire que c'était ça notre problème, qu'on ne voulait pas s'attacher à la dimension collective. Et il semblerait que ce soit exactement ça le problème de Boaz. Il a un grand problème avec Manoach. Vous savez que de Boaz, je ne vous apprends rien, de Boaz va sortir un monsieur qui s'appelle Oved. De Oved va sortir un monsieur qui s'appelle Ishaï. Et de Ishaï, il va sortir un monsieur qui s'appelle David. Et David va être celui qui va réunir le clan Israël et qui va tout simplement dévoiler Malchut Hashem Baolam. Alors que Manoach, eh bien, ça va être tout simplement quoi? Ça va être le père de Shimshon. Et la vision du monde de David et inverse complètement avec la vision du monde de Shimshon. Je veux que vous compreniez à quel point ce rattachement au clan est fondamental. Avant d'arriver avec David et Shimshon, nous dit la halakha dans Ilchot Teshuva du Rambam, chapitre 3, halakha Yud Aleph. Nous dit le Rambam, Aporesh midarchet tzibur, celui qui se détache de la communauté, Afalpi shelo avar averot, c'est-à-dire le mec qui fait le Shulchan Aruch, aval nivdal me'adat Israël ve'eno ose mitzvot bichlalan ve'lo nichnas betzaratam ve'lo mitane beta'anitan ela oler kedarko ke'echad migoye haaretz o shelo sameach besimchatan ke'ilu eino mehen. Nous dit le Rambam, un homme qui fait toute la halakhot, mais qui n'est pas heureux avec le peuple juif à Yom HaAtzmaout, ou qui n'est pas triste avec le peuple juif à Tisha B'Av, mais il fait toute la halakhot. Hein. C'est-à-dire qu'à Tisha B'Av, Il mange pas. Mais il n'est pas triste. Il fait toutes les halakhot, aval en lo chelek l'olam haba. Parce qu'il s'est détaché de manière permanente de l'identité collective. Shimshon, le fils de Manoach, a étudié chez son père Manoach. C'est-à-dire que toute sa Torah, Shimshon, il l'a appris de son père. Et ça l'a amené à avoir quoi comme comportement? Eh bien, très simple. Un comportement d'outsider. Un comportement de « je ne veux pas être mis en contact avec le reste du peuple juif ». Si bien que lorsque les gens de Yehuda viennent lui dire « mais à cause de toi, les Plishtim, ils nous attaquent », Shimshon, il dit « mais tu sais quoi, vous avez qu'à me vendre aux Plishtim, de toute façon, je ne suis pas avec vous, je me débrouillerai tout seul ». Shimshon est un fervent défenseur du Prat. Alors, je ne dis pas, à l'époque de Shimshon, il n'y avait pas le choix. Mais cet idéal qui lui a été transmis par son père, eh bien, Boaz, il en est complètement opposé. Boaz, pour lui, ce que l'individu fait, ce n'est que l'expression de ce que l'entité collective doit faire. Et c'est ce qu'il va transmettre à son fils, qu'il va transmettre à son petit-fils, et qu'il va transmettre à son arrière-petit-fils. Et c'est pour ça que lorsque David va se présenter devant Goliath, eh bien, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à Goliath, je cite le verset, il dit à Goliath, Vayomer David el Plishti, Ata ba elai becherev ubechanit, ubekidon, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. Moi, je ne suis pas David. Je viens au nom du Dieu des armées d'Israël. Je suis le représentant du peuple juif. C'est toute la différence entre Shimshon qui dit « Je suis moi et je dirai aux Philistins que vous n'avez rien à voir avec moi » et David qui dit « Je suis un représentant du peuple juif. » En malasot. Boaz, il n'a pas invité Manoach. Parce que pour Boaz, qui vivait le klal de manière fondamentale, eh bien, il n'accepte pas un homme qui, pour lui, l'idéal du judaïsme, c'est tout seul. C'est pas possible. C'est pas chou, pas possible. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut se poser une seule question. Est-ce que l'appartenance au klal, qui comprend l'importance du prat, encore une fois, il ne s'agit pas d'annuler l'importance de l'individu. Mais est-ce que l'importance du klal, l'importance du prat, ça suffit? Eh bien, la vérité, c'est que pour pouvoir recevoir la Torah, il faut également le superklal. C'est quoi le superklal? Eh bien, c'est comprendre qu'au-delà de l'individu que je représente, au-delà du peuple juif qui est mon entité collective, eh bien, je dois être capable également d'avoir un lien avec l'humanité tout entière. Je ne peux pas m'enfermer dans mes frontières. Je dois également avoir une ouverture sur le monde. Tout simplement parce que Dieu a mis sur cette planète et les juifs et les non-juifs. Et donc, il faut avoir la possibilité d'avoir un contact avec eux pour que cette Torah puisse véritablement se dévoiler. C'est pour ça que nous dira le Midrash, dans le Midrash Tanchuma, qui nous dit cette phrase incroyable. Raoui aya Yaakov avinu shetinaten Torah al yado. Ela shedoro lo aya Raoui lekach. C'est que la génération de Yaakov n'était pas au niveau que Yaakov reçoive la Torah. Mais c'est qui la génération de Yaakov? De qui on parle? Ça peut être Esav. C'est un bonhomme. Donc tout simplement, c'est qui? Ben, c'est toute la génération de Yaakov, à savoir tous les goyim de l'époque de Yaakov. Les goyim à l'époque de Yaakov sont tellement pas au niveau que Yaakov ne peut pas transmettre la Torah. Parce que c'est un message qu'ils ne seront pas capables d'entendre. Même pas des individus parmi eux. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui a changé à l'époque de Moshe? Eh bien, à l'époque de Moshe, ce qui a changé, c'est que Yitro est arrivé. Le fait que Yitro arrive avant le don de la Torah montre que ne serait-ce qu'une personne, un représentant de Umot HaOlam, a atteint le niveau où il peut entendre le message de Dieu. Donc on peut y aller. Donc on peut y aller. Parce que ce message qui va être donné au peuple juif doit avoir un retenti dans le monde entier. Et cette dimension que le Ham Israël a un message à donner, nous oblige à prendre conscience d'une chose. Nous oblige à prendre conscience que Chag HaShavuot n'a pas de couleur. Chag HaShavuot n'a pas de couleur. Tu sais ce que ça veut dire? Alors Élie, c'est pour toi, c'est cadeau. Nous dit Rabbi Shlomo Karlebach. Je ne sais pas s'il est, il est toujours là ou pas. Peut-être on l'a perdu. Mais il m'avait demandé de trouver un truc à dire sur Reb Shlomo. Alors c'est parti. Dit Reb Shlomo Karlebach. Dans chaque fête juive, il y a une couleur particulière à la fête. Rosh Hashanah a son chauffard, Pesach a ses matzot, Sukkot a son loulav, Purim a sa Megillah, Yom Kippour a son non-manger, mais Chag HaShavuot n'a pas de couleur. Il n'y a aucune mitzvah propre à Shavuot. Nous dit Reb Shlomo Karlebach que c'est Ba'omek le rayon du minag du gâteau au fromage. Que le gâteau au fromage, il est dafka lavan. Parce que à lavan, c'est kol asvaim beyachad. Que le blanc, c'est toutes les couleurs ensemble. C'est pas une couleur particulière. Le lavan, c'est aklal. Nous dit Reb Shlomo, bon, qui était un petit peu ashkenaz sur les bords, nous dit Reb Shlomo, c'est pour ça que minag Israël echol ma'achal lavan bechag HaShavuot. Il dit, c'est pour ça qu'on mange des ma'achalei chalav. Pas parce qu'on n'a pas eu le temps de cachériser comme on nous raconte au Gan. Mais que c'est ma'achalim levanim comme ma'achalav. Shumare et haitrabrut la klal. Rabotai, cette dimension de Chag HaShavuot, c'est la dimension qui fait me dire que moi, l'individu, je ne peux véritablement avoir une influence que si je suis avec le reste du peuple. À ce moment-là, je pourrais avoir une influence sur l'humanité. Le problème de Shimshon, c'est qu'il n'était que Shimshon. Ou Lohaya Shemesh. Il était Shemesh Katan. Shimshon. Ou Yachel Leoshia et Israël. Avalou Lohigmor. Il a développé la dimension du Prat. Mais il s'est détaché du Klal. Vient Boaz et dit: moi, mes descendants, ils feront le tikkun. Moi, mes descendants, ils se rattacheront au klal. Et tu sais quoi? Mes descendants, ce n'est pas que mes descendants. Mes descendants, c'est également les descendants de Ruth, qui nous provient de Umot Haolam, qui montre qu'il y a également moyen d'avoir un impact et un contact sur l'humanité. C'est pour ça qu'on va lire Megillat Ruth, Bechag HaShavuot, pour comprendre qu'il faut que cette Torah puisse avoir un retenti dans le monde entier. C'est ce que dira le Rav Kook dans son livre Orot HaKodesh, où le Rav Kook nous dit qu'il y a quatre sortes d'hommes. Il y a des hommes qui mettent en avant l'identité individuelle. D'autres qui mettent en avant l'identité nationale. D'autres qui mettent en avant l'identité humaine. Et d'autres qui mettent en avant l'identité cosmique, de la nature. Je suis une créature. Dit le Rav Kook, le problème, c'est que ces quatre dimensions, quand elles sont prises séparément, eh bien, elles se font la guerre l'un l'autre. L'individualiste reproche au national d'être fasciste. Alors que le national reproche à l'individu de ne penser qu'à lui. Tous reprochent à l'humaniste d'être complètement candide. Alors que l'humaniste reproche au nationaliste d'être fasciste. Et à l'individu de ne penser qu'à lui. Mais l'écolo vient et dit « Mais enfin !» Nous ne sommes que des vaches améliorées. Nous devons penser à la planète. Le Rav Kook nous dit, l'idéal est celui qui est capable de faire le lien de ces quatre chansons. Et ce lien, c'est ce qu'on appelle Shir Hashirim. Celui qui est capable de chanter les quatre chansons en même temps est capable de passer de l'individu au klal, au super klal et à la création tout entière. Il dit que c'est cela la signification profonde du mot Israël. Shir El, la chanson qui dévoile le divin. Eh bien, cette chanson, elle commence par la prise de conscience que le tikkun pour nous, c'est d'inviter à notre Seouda et Boaz Ibtzan et Manoach. Nous sommes arrivés dans la génération où nous pouvons enfin réunir les différentes écoles. Et à ce moment-là, alors, on pourra faire revenir Chag HaShavuot à sa véritable signification, à savoir le moment où Dieu se dévoile à tout le monde. C'est ce qui s'est passé à l'époque du Har Sinaï et c'est ce qui doit se passer Behar Hashem Birushalayim Oulai cette année Bimera Beyamenu. Amen. Chag Sameach à tout le monde. Chazak Baruch. Qu'est-ce que c'est? C'est moins chaud aujourd'hui. C'est normal.